Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et étant tombé d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Et sortant vers la troisième heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place du marché à ne rien faire. Et il dit à ceux-ci, « Allez, vous aussi dans la vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils s'en allèrent. Sortant encore vers la sixième heure et vers la neuvième heure, il fit de même. Et sortant vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient là. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Et ils lui disent, « Parce que personne ne nous a engagés. » Il leur dit, « Allez, vous aussi dans la vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. » Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en commençant depuis les derniers jusqu'au premier. » Et lorsque ceux qui avaient été engagés vers la onzième heure furent venus, ils reçurent chacun un denier. Et quand les premiers furent venus, ils croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de maison, disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons porté le fait du jour et la chaleur. » Et lui répondant, dit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien ? Ton œil est-il méchant parce que moi je suis bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. »
Nous avons été occupés hier de la parabole du royaume des cieux du chapitre 18e. Nous avons vu que c'était la 7e, après celle dont notre frère a parlé dans l'introduction, les paraboles du chapitre 13e. Nous arrivons, étant donné qu'au chapitre 13, la première parabole n'est pas une parabole du royaume des cieux, c'est une parabole introductive aux autres paraboles, aux six autres paraboles qui sont, elles, des paraboles du royaume des cieux. Et nous avons vu hier, la 7e, au chapitre 18e, elle est dominée par un mot. En fait, c'est le mot « pardon » qui, du reste, a occupé les frères et abondamment, avec raison, il a été beaucoup parlé du pardon de la part de Dieu et du pardon de notre part vis-à-vis de nos frères. C'est la question que le disciple Pierre a posée qui a amené le Seigneur à nous donner une telle parabole. « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi ? Et lui pardonnerai-je ? Sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Nous avons remarqué la fréquence du chiffre 7. Pas moins de 4 fois, nous avons ou le chiffre 7 ou le nombre 70 qui nous montre, en fait, selon l'interprétation du chiffre 7, qui exprime une plénitude, nous avons à pardonner toujours, toujours, chaque fois qu'il y a une occasion de manifester ce pardon, nous devons le faire. C'est ce qu'exprime ce chiffre 7, et voilà pourquoi Pierre est amené à parler non pas de 5 fois ou de 8 fois, mais de 7 fois, sera jusqu'à 7 fois. Ainsi donc, par cette question, la parabole du royaume des cieux, depuis le verset 23e, est introduite, et c'est cette parabole où il est parlé d'un roi, c'est Dieu qui est ce roi. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Alors les frères ont été amenés à voir au cours de la réunion, ils ont été amenés à voir d'un côté le tableau des voies gouvernementales de Dieu à l'égard du peuple d'Israël et à l'égard des nations ou des gentils. Et puis d'un autre côté, il y a tout l'enseignement pratique dont nous avons été occupés et abondamment et avec raison de sérieuses exhortations sur la base de l'enseignement des épîtres qui nous ont été rappelées quant au fait de nous pardonner les uns aux autres. Il y a donc d'un côté cette pensée de la riche grâce de Dieu qui a pardonné abondamment, encore et toujours à son peuple, Israël. C'est là, ce peuple représenté par cet esclave, auquel une immense dette est remise, une immense dette, une dette qui représente, pour ce qui est de notre argent aujourd'hui, des millions. Un frère nous a même parlé de milliards d'argent. Or, voilà ce que représente cette somme dont il est parlé ici. Une somme de 10 000 talents. Eh bien, à l'esclave, une telle somme est remise, et voici que cet esclave rencontre, peu après un tel pardon de la part de celui qui est le roi, Dieu lui-même, il rencontre un autre esclave. Ils étaient, il est bien précisé, esclaves l'un et l'autre. Et alors, cet esclave, ce deuxième esclave devait une toute petite somme, 100 deniers. C'était vraiment pas grand-chose à côté de la première somme. Et il se montre impitoyable à l'égard de cet esclave qui lui devait très peu de choses. Et il était tellement méchant qu'il allait jusqu'à l'étrangler. Et alors il le supplie, il se laisse absolument pas attendrir par ses supplications, au contraire, il sent que sa méchanceté, sa fureur se développe, il va jusqu'à le faire mettre en prison. Eh bien, d'un côté, nous avons Israël, auquel une dette immense a été remise. Dieu n'a cessé de pardonner à ce peuple. Et les frères ont cité dans les livres de l'Ancien Testament de nombreux passages en rapport avec ce magnifique pardon de Dieu. Et alors, Israël, comment a-t-il agi vis-à-vis de l'autre esclave, c'est-à-dire vis-à-vis des autres peuples que lui-même, c'est-à-dire vis-à-vis des gentils? Ils ont tout fait, émus de jalousie, le livre des Actes nous le dit plusieurs fois, ils ont tout fait pour empêcher que l'Évangile parvienne aux nations. Vraiment, d'une part, le grand pardon de Dieu dont Israël a été l'objet, d'autre part, ce manque de pardon, bien au contraire, cette méchanceté qui a amené les Juifs à empêcher les nations, les gentils, de venir au Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit en termes saisissants à la fin d'un Thessalonicien 2. Ils empêchent, voilà ce sont les Juifs, dit-il, ils empêchent que les nations reçoivent l'Évangile de Dieu. Voilà pour le côté doctrinal, le côté des voies gouvernementales de Dieu à l'égard du peuple d'Israël et à l'égard des nations. Puis, d'un autre côté, tout l'enseignement pratique, et nos frères ont dit plusieurs fois hier qu'il importait pour être à même de pardonner à un frère. Nous estimons que ce frère nous a fait un tort, et bien souvent un tort léger, peu de choses. Eh bien, nous devons toujours être remplis du sentiment de l'immense grâce de Dieu à notre égard. Combien Dieu nous a pardonné. On vient de le chanter. Tu nous as donné ton pardon. Nous devrions être davantage pénétrés de l'immensité de la grâce de Dieu pour pouvoir alors pardonner. Et nous pardonnerons beaucoup plus facilement si nous pensons à l'immense grâce de Dieu. Voilà ce qui nous a occupés dans la journée d'hier concernant cette septième parabole du royaume des cieux. On vient de nous lire maintenant la huitième au chapitre 20e. Quel est le mot, le terme qui domine cette nouvelle parabole du royaume des cieux? Si au chapitre 18 c'est le mot pardon, ici nous avons le mot appel, c'est l'appel de Dieu. Dieu appelle. Il est comparé à un maître de la maison. Le royaume des cieux, avons-nous lu, est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il est parlé de la vigne, il n'est pas parlé d'un champ, d'un jardin, d'un verger, d'un domaine, d'une propriété, il est précisé, il est parlé d'une vigne. Le juif qui se penchait sur les oracles de l'Ancien Testament pouvait alors, en entendant parler de cette parabole, en entendant parler du maître de maison, d'une vigne, pouvait penser à lui-même. Cette vigne dont il est souvent parlé dans l'Ancien Testament et qui devait représenter le peuple d'Israël. On a du reste fait allusion à cela dans une prière tout à l'heure. Simplement la mention d'une vigne et non pas d'un jardin ou d'un domaine, cette seule mention pouvait amener un juif qui lisait les oracles de l'Ancien Testament à penser que le Seigneur, en énonçant une telle parabole, pensait à son peuple tout d'abord, le peuple juif, si souvent comparé à une vigne. Voici donc que ce domaine de notre Seigneur, c'est, disons, le Dieu, le maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Dieu appelle, il appelle des hommes. Il appelle les hommes à venir à lui pour entrer dans sa vigne et pour y travailler, pour servir Dieu. Dieu veut que sa créature le serve. Dieu a toute autorité, Dieu a tout droit, comme il est le roi dans la parabole précédente du chapitre 18. Ici, il est le maître de maison, il est celui qui a toute autorité. Or, un jour, Dieu est sorti. Notons ce verbe très simple, mais qui est d'une éloquence particulière dans notre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer les ouvriers pour sa vigne. N'est-il pas beau ce verbe sortir ? Dieu un jour est sorti pour manifester les immenses richesses de sa grâce. Dieu est sorti, il est sorti de son repos. Après le repos, après le travail de la création, Dieu est sorti pour appeler l'homme devenu pécheur. Il l'appelle. Cela est quand même l'expression de la grâce de Dieu. Dieu appelle l'homme dès le point du jour, dès le début. Tout aussitôt, très rapidement, le Seigneur, c'est pour ainsi dire notre Dieu, s'est remis au travail. Après le travail de la création, il y a alors un autre travail qui commence, le travail de la grâce vis-à-vis de l'homme, puisque l'homme est devenu pécheur, il est devenu transgresseur. Alors, dès le point du jour, dès le début, très rapidement, notre Dieu s'est levé pour sortir de son repos afin d'appeler l'homme à entrer dans sa vigne pour le servir. Dieu veut que l'homme le serve. Dieu est le maître de la maison, l'homme est son serviteur. Il veut que sa créature le serve. Dès le point du jour, et le Seigneur Jésus, au jour de sa chair, au début de son ministère, dira « Mon Père travaille jusqu'à aujourd'hui et moi je travaille ». Jean 5, 17, « Mon Père travaille ». Voilà le travail incessant de notre Dieu, infatigable dans la manifestation de sa grâce, d'un Dieu sorti donc au point du jour pour appeler les ouvriers. Nous ne voulons pas prendre trop de place pour ne pas empêcher d'autres frères d'exprimer les pensées que le Seigneur leur met à cœur concernant l'enseignement de cette parabole. Verset 2, « Étant tombé d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya dans sa vigne. » Dans ce verset 2, il est donc parlé d'une première catégorie d'ouvriers. Il y a eu des ouvriers que Dieu a envoyés pour un denier, comme ouvrier, un denier par jour, il les a envoyés dans sa vigne. Ensuite, il est parlé d'autres heures et il est parlé d'autres hommes auxquels Dieu s'adresse. Quels sont ces premiers ouvriers auxquels Dieu s'est adressé? Mais ce sont les Juifs, c'est toujours la même pensée que nous avons dans toutes ces paraboles du royaume des cieux. Il y a les Juifs tout d'abord. Dieu les a invités, ce peuple, un peuple mis à part. Il a invité ce peuple à entrer dans sa vie pour travailler, pour le servir, pour travailler à sa gloire. Afin, étant tombé d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Cet accord nous fait penser, chers amis, à un contrat. Cet accord nous fait penser à ce qu'un jour le peuple d'Israël a dit, lorsque la loi a été donnée, tout ce que Dieu nous a dit de faire, nous le ferons. Quelle imprudence, chers amis, mais aussi quelle sûreté de soi-même pour pouvoir tenir un tel langage. Tout ce que Dieu nous a dit de faire, nous le ferons. Voilà le langage du peuple quand la loi a été donnée. Un contrat. On s'est mis d'accord avec Dieu pour accomplir toute la volonté de Dieu exprimée par cette loi très sainte et très juste. Une loi qui ne donne rien, une loi qui ne fait que d'exiger, elle exige, elle ne donne rien, en tout cas, elle ne donne pas la force pour l'accomplir. Et voici ce pauvre peuple, ces premiers ouvriers, qui sont mis d'accord, pour ainsi dire, avec Dieu, d'accomplir la loi, voilà, ce solennel contrat d'Exode 19. Tout ce que Dieu nous a dit de faire, nous le ferons. Alors, sortant à nouveau, Dieu sort. Il sort plusieurs fois, il a parlé de plusieurs heures. Nous avons là ces différents appels de Dieu à l'égard des hommes au cours des temps et selon les diverses économies. Et sortant vers la troisième heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place du marché à ne rien faire. Et il dit à ceux-ci, « Allez vous aussi dans la vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils s'en allèrent. Voici donc une autre catégorie d'hommes, et nous pensons aux nations qui étaient sans Dieu dans le monde, sans espérance, n'avaient rien. Et puis quant à eux-mêmes, ils ne faisaient rien du tout. Voilà ce qui les caractérise. Ils étaient sur la place du marché à ne rien faire. La place du marché, la célèbre agora des Grecs, cette place du marché qui signifie en fait toute une agitation dans un déploiement d'hyperactivité, on travaille, on fait des affaires dans un sens, dans un autre, on ne pense qu'à soi, on ne pense qu'à ses propres intérêts, en tous les cas on ne pense pas aux intérêts majeurs, supérieurs, les intérêts de son âme, des intérêts qui sont des intérêts d'ordre éternel. On est là, sur la place du marché, au milieu du brouhaha des hommes, qui vaquent à leurs affaires sans du tout penser à Dieu. C'est là la place du marché où l'on s'agite, où l'on travaille surabondamment, mais sans du tout penser à Dieu, ni à Dieu, ni à son âme. On est là sans rien faire. On est là parfaitement indifférent, parfaitement indolent. On ne s'occupe pas du tout de la volonté de Dieu, des appels de Dieu. Dieu qui veut notre salut et notre bonheur éternel, ces questions fondamentales ne nous touchent pas. On ne pense absolument pas à ses intérêts, vraiment les intérêts supérieurs. On est là, sur la place du marché, au milieu du brouhaha des fils des hommes, et on ne fait rien. On est là, on ne fait rien. On ne pense pas aux intérêts de son âme. On est absolument indifférent à l'égard et de l'amour de Dieu et de sa grâce qui nous appelle incessamment. Et l'on verra dans la suite de la parabole, Dieu sortant à nouveau, en d'autres heures, n'avons-nous pas là le tableau de cette activité incessante de la grâce de Dieu, d'un Dieu qui sort et qui sort encore et qui sort toujours pour venir à la rencontre de l'homme, pour l'appeler à venir dans son domaine, à lui, le domaine de Dieu, à venir dans sa vigne pour le servir, ce que Dieu, qui est le maître de la maison, est parfaitement en droit d'attendre. Il attend de sa créature que sa créature le serve. Notre Dieu a tout droit, et c'est la moindre chose que l'homme puisse faire, répondre à ses appels en vue de le servir.
Comme nous l'avons vu hier dans la parabole du chapitre 18, le contexte de la parabole a son importance. Ici également, il importe de considérer les versets qui précèdent l'occasion dans laquelle le Seigneur nous donne cette parabole. Il y avait Pierre qui s'est avancé beaucoup, il le faisait souvent, c'était un homme spontané, prime sautier qui, dans ses paroles, trahissait une certaine satisfaction d'avoir suivi le Seigneur. Ici, Pierre peut dire, après la rencontre du Seigneur avec le jeune homme riche, voilà, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, non pas fait comme ce jeune homme qui, lui, s'en est allé. Et le Seigneur, avec beaucoup de douceur, comme il fait toujours, il cache la répréhension dans, il l'enveloppe dans des paroles de grâce pour faire passer le message qu'il veut communiquer. Alors il commence par dire à Pierre, en effet, vous m'avez suivi. C'est tout à fait juste. Et pour ceux qui m'ont suivi, il y aura une récompense. Récompense consiste à être assis dans le royaume. Nous sommes là dans une parabole du royaume. Vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Quelle récompense pour l'avoir suivi dans le temps de sa réjection. Et le Seigneur confirme qu'avoir quitté ceci ou cela pour l'amour de son nom entraînera une récompense et la vie éternelle. Le Seigneur commence par présenter le côté positif. Il ajoute ceci, plusieurs qui sont les premiers seront les derniers et des derniers seront les premiers. Voilà le sel. Voilà ce qui est pour la conscience. Et vient la parabole qui se termine de la même manière. Elle est donc encadrée par la parole que nous avons trouvée au verset 30. Plusieurs qui sont les premiers seront les derniers. Et au verset 16 de notre chapitre 20e, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. On voit donc bien là que la parabole constitue l'enseignement fondamental que le Seigneur veut donner à Pierre et puis à ses disciples. Est-ce que ce n'est pas pour leur dire, voilà, le règne vous attend. Avec moi, vous aurez le privilège de le partager. Mais avant le règne, il y a le service. Il y a l'activité, il y a le travail. Et ce service entraînera ensuite une récompense. Il peut dire, vous serez assis sur 12 trônes. Et le Seigneur présente d'abord la récompense avant le travail. Le fait d'être assis, une position de repos, suggère donc qu'avant le repos, il y a eu activité, il y a eu travail. Dans bien des passages qui nous présentent le Seigneur Jésus assis à la droite de Dieu, cette séance, cette position assise, suit moralement soit son service ici-bas, comme l'évangile de Marc qui s'achève en nous montrant le Seigneur montant et s'asseyant. Lui, le parfait serviteur, l'esclave volontaire, au début des Hébreux, et nous pourrions citer encore bien des passages qui nous présentent le même côté, soit, ayant fait par lui-même la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté. Position assise, position de repos. Eh bien, vous serez assis, le moment viendra, le moment du repos, le moment du règne viendra. Mais il y a d'abord l'activité, le travail, le service. Et cela, ne le perdez pas de vue, mes chers disciples, leur dit, pour ainsi dire, le Seigneur à travers l'enseignement de cette parabole. Et nous avons encore une pensée bien précieuse qui se trouve cachée dans le verset 29, qui est là comme pour dire, bien, le service dans la vigne, il a un motif. Et ce motif, c'est l'amour de mon nom. Voilà, voilà le vrai motif. La récompense viendra, sans doute, assis sur des trônes. Il y aura le denier de la parabole, sans doute, là. Mais l'amour de mon nom, voilà le vrai motif. Connaître le Seigneur et travailler parce qu'on l'aime, parce qu'on connaît son amour, parce qu'on sait qu'on a d'abord été aimé et que rien n'est trop grand, aucun service n'est trop fatigant, trop pénible, trop difficile quand c'est pour lui qu'on le fait et quand c'est avec son secours qu'on le fait. Ainsi, travailler pour le Seigneur est une grâce. Et cela ressort de cette parabole où, selon les vues humaines, il y a bien une injustice de la part du maître de maison. En fait, que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure, ils sont payés autant que ceux qui ont travaillé toute la journée. Ceux qui murmurent en soi, en droit humain, n'est-ce pas, auraient parfaitement raison. Mais perdent de vue, et nous avons à veiller, en ce qui nous concerne, à ne pas perdre cela de vue. Le service est une grâce, c'est un privilège. Avoir pu travailler pour le Seigneur, avoir pu commencer de bonne heure, ne pas avoir perdu des années, n'est-ce pas? C'est une grâce que Dieu fait. Il n'y a rien de plus précieux pour celui qui connaît le Seigneur que de faire quelque chose pour lui, si petit que ce soit, là où il veut, dans la vigne, à telle heure du jour, comme il le veut. Mais travailler pour lui, quel privilège, et le faire pour l'amour de son nom.
C'est intéressant de se souvenir de l'ancienneté de la vigne. La culture de la vigne remonte aux premières pages de la Bible. On sait que Noé avait cultivé la vigne. Elle est devenue un symbole de l'activité humaine et aussi de celle de Dieu qui avait planté une vigne. Et un passage qui est souvent cité peu mal à propos, on ne comprend pas bien le contexte, se trouve dans le livre de Deutéronome, à l'égard d'une vigne. C'est intéressant de revenir un instant sur la culture de la vigne. Et nous lisons au chapitre 32, au verset 32, « Leur vigne est la vigne de Sodome et du terroir de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins vénéneux et leurs grappes sont amères. Leur vin est un venin de monstre. » Et un poison cruel d'aspic. De qui est-il dit cela? Cela n'est pas dit d'Israël. Cela est dit d'abord des nations qui étaient responsables aussi, qui étaient sous le gouvernement de Dieu et qui devaient rapporter du fruit. Première mention, Deutéronome 32, on peut lire le contexte avec intérêt. Il s'agit des nations qui, opposées à Israël, sont dans cet état. Mais la vigne de Dieu, elle est montrée dans ses détails dans Ésaïe 5. Nous n'allons pas revenir sur ce sujet bien connu, sauf pour montrer que c'est une ville absolument déchue, malgré les soins dont elle a été l'objet de la part de Dieu. N'oublions pas qu'Ésaïe prophétise au jour d'Ozias, qui est devenu un roi lépreux, de sorte que Dieu montre la décadence du royaume à la fois dans l'histoire de la vigne, qui est devenue ce qu'elle était, malgré tous les soins, l'attention qu'il a prise pour obtenir des raisins convenables, il a obtenu du raisin sauvage. Vous voyez dans le prophète Jérémie au chapitre 2, ce que Dieu nous dit de cette vigne, car au verset 21 du chapitre 2, nous lisons, « Moi je t'avais planté un cep exquis, une toute vraie semence, comment t'es-tu changé pour moi en sarment dégénéré ?» Donc la vigne d'Israël, qui est le commencement de son histoire, elle est devenue une vigne dégénérée. Si nous lisons le prophète Ézéchiel, encore mention de ce prophète, nous allons voir que cette vigne, elle est devenue quelque chose effroyable au point de vue des résultats, au point de vue de... Dans Ézéchiel 17, nous avons au verset 8, elle était plantée dans un bon terrain, près des grandes eaux. Vous voyez l'environnement, tous les soins que Dieu a pris de sa vigne, afin de produire des sarments et de porter du fruit, afin d'être une vigne magnifique. Et le prophète Osée nous dit, c'est devenu une vigne branchue, chapitre 10. C'est-à-dire, elle était luxuriante au point de vue extérieur, mais elle ne portait aucun fruit. Nous avons donc, tout le long du jour, cette vigne dont Dieu s'est occupé. Mais tout le long du jour, dit le prophète Ésaïe, cité par Paul dans l'Épître aux Romains, tout le long du jour, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Dieu n'a donc rien obtenu de cette vigne, et nous verrons dans le chapitre suivant qu'hélas, elle va tuer le fils du maître de la vigne. La fin de son histoire se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, sous une figure, sous une parabole. Le maître de la maison n'a plus qu'une ressource pour obtenir du fruit des cultivateurs de sa vigne, et il envoie sa dernière ressource, ayant encore un unique fils bien-aimé, il le leur envoya en disant, « Peut-être maintenant vont-ils avoir du respect pour mon fils, et vais-je enfin obtenir le fruit qui m'est dû, le fruit légitime que je dois attendre de cette vigne ?» Alors, le Seigneur était donc sorti dès le point du jour, dès le commencement de ses relations avec son peuple, déjà antérieurement encore avec l'homme depuis le temps de Noé. Dieu s'est occupé de l'homme voulant obtenir du fruit, voulant être servi. Nous l'avons entendu il y a un instant. Et ce point du jour se situe bien loin dans l'histoire du temps, et à la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé en fils. Une nouvelle sphère d'opération commence pour Dieu, et nous avons maintenant comment Dieu va procéder, non plus en demandant ce que la loi exigeait de l'homme, mais qui n'a rien apporté. La loi est un ministère de mort et de condamnation, elle ne donne aucune ressource, elle ne donne aucune puissance à l'homme pour accomplir ce que Dieu demande. Qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, Dieu va faire tout autrement, il va donner maintenant, il va présenter quelque chose à l'homme, un objet pour son cœur qui le rend capable de rendre à Dieu du fruit. Notre frère Bennett disait, tout ce que Dieu a confié à l'homme a été perdu. Montrez l'exemple de la main de l'homme dans laquelle Dieu a placé un trésor. Et plus tard, Dieu demande, rends-moi un peu ce trésor. Et il est perdu, il a laissé tomber dans la boue, on ne peut plus le récupérer. Christ lui relève tout ce que l'homme a perdu et le représente à Dieu dans toute sa beauté, dans toute sa gloire. Mais après avoir fait cette expérience avec l'homme qui a perdu son trésor, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est une belle pensée de frère Bellet. Il dit, donne-moi ton autre main. Et dans l'autre main, alors, il place un trésor beaucoup plus grand, beaucoup plus précieux que celui qui a été perdu. Évidemment, il le place sur un autre terrain, sur celui de la grâce. C'est celui que nous allons trouver maintenant à l'égard de l'appel de Dieu à tous, non pas récompensant selon la durée du travail, selon un effort que l'homme peut faire, mais selon son propre dessein. Les derniers recevront autant que les premiers. Mais ce n'est pas la durée du travail qui compte, c'est la qualité du travail. C'est le motif qui pousse à accomplir un travail, et Dieu seul peut produire ce motif, et ce motif, c'est Christ.
Nous avons donc dans cette parabole le tableau d'une longue journée. Elle commence, comme toutes les journées du reste, par le point du jour, elle s'achève par le soir qui arrive. Il est dit en effet, au verset premier, il sortit dès le point du jour, et au verset huitième, le soir étant venu. Et au cours de cette longue journée, nous avons les agissements de notre Dieu, Dieu qui sort. Trois fois, nous avons ce verbe sortir, et en rapport avec deux des heures mentionnées, il est dit, il fit de même, donc Dieu sort, il sort encore, Dieu appelant ainsi l'homme, que ce soit en Israël autrefois, que ce soit parmi les gentils maintenant, Dieu sort et appelle les enfants des hommes à venir dans sa vigne. Dans un but de clarté, nous dirons que nous avons trois grands sujets dans cette parabole de l'ouvrier, comme on appelle couramment, c'est la parabole de l'ouvrier de la 11e heure. Nous avons là trois grands sujets. 1. comment Dieu appelle. Eh bien, Dieu sort, il sort encore, il appelle les enfants des hommes. C'est la merveille de la grâce de notre Dieu. Et deuxièmement, à quoi Dieu les appelle ? Venez dans ma vigne, venez travailler, restez pas là où vous êtes. Vous ne faites rien du tout, vous êtes là, flânant, ne vous occupant de rien, ne pensant en tout cas pas ni à Dieu, ni à votre âme, ni à votre avenir éternel. Venez, Dieu appelle l'homme. À quoi Dieu appelle l'homme ? Et enfin, troisième sujet, est la rétribution, la récompense que Dieu, dans sa grâce encore, veut bien accorder à celui qui répond à ses appels. C'est là la structure de cette parabole. Comment Dieu appelle, à quoi il appelle, et la récompense qu'il veut bien accorder à celui qui a répondu à ses appels. C'est vraiment un tableau merveilleux de la grâce de Dieu que nous avons là, et il nous faut nous attacher à cette pensée de cette grâce d'un Dieu qui prend la peine de sortir et de sortir encore, parce qu'il est toujours vrai que Dieu travaille, mon Père travaille, il travaille aujourd'hui, et moi, de même, je travaille. Il nous faut garder le souvenir de cette structure si nous voulons bien saisir la pensée de l'Esprit par le moyen de cette parabole.
Il l'appelle à 9h, à midi, à 3h, et la journée finit à 6h. Il vient aussi à 5h, avant la fin de la journée, jusqu'au dernier moment, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'à 6h, la journée aurait été terminée. Les premiers, ils avaient passé un contrat avec le maître de la vigne. Venez, ils s'étaient entendus avec eux, il y avait un contrat. Et les premiers sont partis sur la base de ce contrat-là. Ensuite, quelle était la base du départ des autres ? Les autres, ils n'avaient simplement que la promesse du maître. Il leur dit, il les invite, c'est une invitation, ce n'est pas un contrat, « Allez-vous aussi dans la vigne, je vous donnerai ce qui est juste. » Ils partent, s'appuyant simplement sur la parole du maître, faisant confiance au maître. Et c'est ce qui se passe aussi pour les derniers, ceux de la 11e heure. Il a fait la même chose aux autres, mais ceux de la 11e heure, ils partent aussi avec simplement cette parole, « Allez-vous aussi dans la vigne et vous recevrez ce qui sera juste. » Je confie simplement dans la parole du Maître. Et c'est cela qui a du prix pour le cœur du Seigneur. Une simple foi dans sa parole. Et puis une autre chose, quand il leur a dit « Allez », ils ont obéi. Ils n'ont pas discuté. Ils auraient pu dire « Oh bien, c'est 11h, maintenant c'est trop tard. » Non, ils ont obéi à la voix du Maître. Alors pour nous, le Seigneur nous appelle, est-ce que nous obéissons ? Il nous appelle, est-ce que nous nous confions dans ce qu'il nous dit ? Est-ce que nous avons confiance dans sa parole ? Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore. Dieu n'est pas injuste. Pour oublier le verre d'eau donné en son nom, pour oublier ce qu'il a placé ainsi devant nous. Peut-être que quelqu'un ici va se poser des questions disant, mais voyons, à quoi le Seigneur nous invite-t-il de travailler ? Alors on pense à des frères qui partent au loin, des colporteurs, des choses qui se voient. Mais en fait, le Seigneur nous invite tous. Et ce qu'il nous demande, ce n'est pas de faire tel ou tel travail que l'on verrait ou que l'on voit faire par un autre, imiter le travail d'un autre. Ce qu'il nous demande, c'est de faire le travail qu'il nous donne à nous, jour après jour. Non pas le travail que nous ferons demain, que nous espérons faire, celui dont nous rêvons, mais ce qui est à notre portée aujourd'hui. Pour un petit enfant, il y a quelque chose que Dieu donne à faire. Ne serait-ce que de lui obéir en obéissant à ses parents. Et au fur et à mesure que que la vie passe, eh bien, il va donner autre chose, suivant la manière dont nous l'avons suivi. Quand Samuel a commencé, qu'il était avec Élie, eh bien, il était là pour aider Élie. Et puis, il lui avait donné aussi un travail. Il fallait ouvrir la porte de la maison de l'Éternel à Silo. Il fallait la fermer, suivant ce qu'Élie avait demandé. Et puis, il a été fidèle dans ce travail qui était à sa portée. Et puis ensuite, quand Dieu lui a parlé, eh bien, il n'a laissé tomber aucune des paroles que Dieu lui avait dites. Et petit à petit, son service est allé vers les autres, vers le peuple, et Samuel a été Samuel, si on peut dire. Et pour nous, c'est la même chose. Pas après pas, le Seigneur nous appelle pour le service qu'il nous a préparé, pour que nous le fassions, étant obéissant à son appel, et étant confiant dans sa parole et confiant dans son cœur. Et puis si cela est vrai, alors le motif de notre départ pour lui, ce n'est pas le denier, ce n'est pas un contrat que nous avons passé avec lui. Le motif, c'est ce que nous avons vu au début, c'est l'amour pour son nom.
Le fait de servir le Seigneur est encore une manifestation de sa grâce, de sa miséricorde. L'apôtre Paul en était pleinement conscient. Nous avons reçu, notre frère dit maintenant, nous avons reçu ce ministère comme ayant obtenu miséricorde. C'est le grand sujet de la deuxième épître aux Corinthiens, le ministère dont chaque chapitre nous parle, le ministère sous différentes formes, par exemple les chapitres 8 et 9, nous montre la libéralité, la générosité, matériellement parlant, exercée comme étant une forme de ce service auquel, de ce ministère auquel le Seigneur nous appelle. Dans cette parabole, n'avons-nous pas tout d'abord un tableau de la merveilleuse grâce de Dieu qui sort et qui sort encore pour appeler les hommes à venir dans sa vigne, pour travailler pour lui? Mais il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est répondre aux appels de ce Dieu qui en grâce sort et vient jusqu'à nous. Il nous appelle. Il faut donc répondre tout d'abord à la grâce de Dieu. Nous avons, par la grâce de Dieu, répondu à cet appel. Nous sommes alors appelés à servir. Mais le premier tableau que nous avons dans cette épître, n'est-ce pas un tableau dans le sens de l'évangélisation? Est-ce qu'il n'y a pas là un message extraordinaire de la grâce de Dieu? Nos frères, particulièrement doués pour l'Évangile, n'auraient-ils pas raison de lire une telle parabole dans le sens des appels de la grâce de Dieu aux enfants des hommes? Venez, venez dans ma vigne, venez, venez, quoi faire dans ma vigne? Eh bien, comme notre frère le dit maintenant, non pas pour faire absolument rien du tout, mais pour servir. Mais pour cela, il faut d'abord avoir la vie de Dieu. Alors, il nous semble que c'est le premier tableau que nous avons là, le tableau des appels d'un Dieu qui en grâce sort pour venir jusqu'à l'homme et l'appeler à lui. Et alors, du moment que l'on a répondu à de tels appels, du moment que nous sommes là, par la grâce de Dieu, croyant au Seigneur Jésus, nous apprenons ceci, que nous avons à le servir, d'où alors le deuxième grand enseignement de cette parabole, servir Dieu. 1 Thessaloniciens 1 vient de nous le dire, converti, tourner des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre le Seigneur Jésus. Alors nous avons là toute la pensée de la responsabilité de celui qui a vu au Seigneur. Il n'est pas là, en effet, pour ne rien faire du tout. Il est là pour agir, pour travailler, selon aussi Hébreux 6. Il est là pour servir le Seigneur. Et alors, une autre parole encore qui fait ressortir cette grâce de Dieu dans cette parabole à l'égard de nous-mêmes. Mais Dieu nous a appelés. Il nous a appelés par sa grâce. Par sa grâce, nous sommes devenus ses enfants. Comme tels, nous avons maintenant à le servir. Est-ce que c'est quand même pas merveilleux quand nous pensons que nous sommes absolument indignes de servir le Seigneur? Mais le Seigneur nous appelle, il veut bien se servir de nous pour que nous le servions. N'avons-nous pas là un tableau magnifique de la grâce de Dieu? Et alors, encore cette parole, et vous recevrez ce qui est juste.
et je vous donnerai ce qui est juste. Mais est-ce que Dieu ne nous a pas tout donné en nous appelant à lui et en nous faisant l'honneur de pouvoir le servir? Il semble que Dieu nous a tout donné. Mais non, la grâce de Dieu se manifeste encore d'une façon suprême dans ces mots. Venez, travaillez pour moi et vous recevrez ce qui est juste. Et je vous donnerai. Voilà Dieu qui veut encore nous donner une récompense en retour du service que nous pouvons accomplir pour lui. Mais ce que nous aimerions faire ressortir, c'est que tout d'abord, nous avons un tableau de la grâce universelle de Dieu. Dieu appelle. Il veut que ses créatures viennent à lui. Il est le maître de la maison. Il a toute autorité. Il appelle. Et maintenant, alors, deuxième tableau, notre responsabilité comme enfant de Dieu, comme croyant, nous avons à servir le Seigneur et tous les enseignements que nos frères développent maintenant, à l'appui des récits de l'Ancien Testament, entre autres, ces exhortations remarquables et solennelles en même temps, qui nous sont données pour que nous servions le Seigneur, celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous.
Quand nous lisons au verset 10, ils reçurent chacun un denier, nous comprenons bien que Luther a bien manqué de dire que c'est la vie éternelle. Naturellement, nous ne méritons pas du tout la vie éternelle. C'est un don de grâce, de pure grâce de Dieu. Mais aussi, quand nous servirons le Seigneur, nous ne devons pas penser que nous allons mériter quelque chose. Ce n'est pas pour mériter quelque chose que nous allons servir le Seigneur. Dieu ne peut pas être notre débiteur. C'est impossible qu'il nous doive quelque chose. Nous devons quelque chose. Nous devons le servir. Quand nous le faisons, ce n'est pas du tout un mérite. Nous lisons en Luc 17, verset 10. Ainsi, vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vont être commandées, dites, nous sommes des esclaves inutiles. Ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. Obligés de faire. Donc, pas du tout avec la pensée de mériter quelque chose. Certainement, il y a une récompense, mais c'est aussi pure grâce. Et il ne faut pas servir le Seigneur pour avoir quelque chose, mais en étant fort reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, c'est très peu de choses, ce que nous pouvons faire pour lui. Quand la reine de Sheba a vu et a visité Salomon, elle dit quelque chose des serviteurs de Salomon. C'est dans le premier livre des rois, 1 roi 10. Cette reine dit au verset 8, « Heureux tes gens, heureux ceux-ci tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. » C'est heureux d'être un serviteur d'un tel roi qui est beaucoup plus que Salomon. Heureux tes serviteurs, parce qu'ils se tiennent continuellement devant toi. Voilà notre privilège, de servir devant la face du Seigneur. Nous le ferons dans l'éternité. Apocalypse 22 nous dit, tes esclaves te serviront et ils verront ta face. Voilà le grand privilège d'un serviteur. Il doit être devant la face du maître. Mais alors, il trouve aussi tout ce qu'il faut à sa face. Le psaume 16 termine un rassasiement de joie devant ta face. C'est notre privilège d'être serviteurs qui seront rassasiés de joie de servir un tel maître.
Nous sommes imprégnés de la logique humaine dans le monde d'aujourd'hui. où une rémunération est proportionnée au travail qu'on accomplit. Peu de travail, peu de salaire, beaucoup de travail, gros salaire. C'est la logique des hommes. Ce n'est pas celle de Dieu. Dieu prend soin des siens. Nous avons vu hier que le denier, c'était le salaire d'une journée de travail. On peut aussi le considérer comme ce qu'il faut pour que quelqu'un vive avec sa famille. C'était une rémunération normale, mais c'était en même temps ce qui était nécessaire pour vivre. Est-ce que nous n'apprenons pas aussi cela dans cette parabole? Que Dieu ne fait pas selon nos propres pensées, c'est-à-dire, on a beaucoup travaillé pour le Seigneur, et Pierre le pensait certainement quand il avait dit « Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, notre récompense à nous, ça ne sera pas peu de choses. » Ce sera au moment où le Seigneur était rejeté par tous les autres et lui avait suivi, mais combien grande allait être sa récompense. On peut dire sur la terre, nous avons à servir le Seigneur, c'est un côté. L'autre côté, le Seigneur prend soin de nous. Non pas à faire de proportions, de règles de trois, là, pour dire, j'ai beaucoup fait, le Seigneur me doit beaucoup, on vient de l'entendre, le Seigneur ne nous doit rien, il n'est pas notre débiteur. Mais dans sa grâce, alors, ne parlons pas ici de la récompense éternelle, mais des soins qu'il prend de nous sur la terre, il nous donne ce qu'il faut. Chaque jour, ce qu'il faut. À chaque jour, suffit sa peine, et aussi, à chaque jour, le Seigneur pourvoit et donne ce qu'il faut. Mais nous avons tellement tendance à faire dépendre notre rémunération de notre travail. Et ça nous amène à calculer comme les hommes. Au lieu de rendre grâce, on a ce qu'il faut pour le jour qui vient. On reçoit de la main de Dieu. Et puis on a à travailler, une autre question. On a à s'occuper pour le Seigneur, à remplir son temps comme lui le demande. Et puis d'autre part, alors on lui rend grâce pour ce qu'il nous donne. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nos actions de grâce ne seront pas ce qu'elles doivent être, n'est-ce pas? Nous estimerons toujours que notre salaire, c'est quelque chose qui nous est dû, que ce soit par notre employeur ou d'une autre manière, mais c'est un dû. Non. Le salaire que nous recevons, même si c'est par le moyen d'un employeur, c'est une grâce que Dieu nous fait, et ce n'est pas un droit. Et Dieu nous prend soin ainsi de nous et de nos familles chaque jour. Il pourvoit notre entretien, et il le fait peut-être pour ce frère-là qui est malade depuis longtemps, qui ne peut pas travailler. Il le fera tout autant que pour celui qui est très actif, et parce qu'il a les forces pour le faire et les capacités.
Il y a un salaire que nous méritions. Il y a une chose que nous méritions. C'est ce que nous avons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, le salaire du péché, c'est la mort. Et voilà le salaire qui nous était destiné. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Étant objet, les objets de cette grâce, ayant compris que s'il est mort, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Ne plus vivre pour soi-même, mais vivre pour lui. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, que nous avons lu tout à l'heure, il y a une chose qui est dans ce paragraphe du verset 5 au verset 10. Le verset 5 et le verset 6 nous parlent de la foi. Et les ouvriers qui ont écouté la voix du Maître, qui ont répondu à son appel, ont manifesté la foi en sa parole. Les versets 7 et les versets 8 et 9 nous parlent de l'obéissance. Ils sont partis, ils ont travaillé, ils ont obéi à leur maître. Ayant obéi, qu'est-ce que leur maître leur doit? Rien. Au verset 10, le verset qu'on a lu dans Luc 17,
Le verset 10 nous parle de l'humilité. Quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites, nous sommes des esclaves inutiles. Souvent, ça c'est une petite parenthèse, on a cette expression, nous sommes des esclaves inutiles. J'avoue que quand j'entends dire ça, j'ai beaucoup d'estime pour celui qui le dit, parce qu'alors il a fait toutes les choses qui lui étaient commandées. Je crois que nous sommes souvent des esclaves désobéissants. Et celui qui a fait tout ce qui lui était commandé, au lieu de dire, voyez, moi je suis un grand esclave, j'ai tout fait, j'ai été obéissant jusqu'au bout, il dit, je suis un esclave inutile. Ce qui avait été placé devant moi, ce que j'étais obligé de faire, alors je l'ai fait. Dans l'Épître aux Colossiens, il y a un autre passage. Peut-être que quelqu'un ici se dit, mais moi j'ai un travail tous les jours, je dois aller au bureau, ou je vais à l'école, ou j'ai mon travail à la maison, mais j'aimerais tellement pouvoir faire autre chose. On lit les lettres sur l'œuvre et on rêve un peu, et puis le Seigneur nous a confié le travail que nous avons, c'est tout. Et dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 23, il est question des esclaves, ceux qui ont un travail. Maintenant, on dirait peut-être des employés, des ouvriers, je ne sais pas. Mais ça nous concerne tous, nous avons tous un travail à accomplir. Et quoi que vous fassiez, faites-le de cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que du Seigneur, vous recevrez la récompense de l'héritage. Vous servez le Seigneur Christ. Il y a une récompense, il y a la récompense de la fidélité que nous aurons montrée tous les jours, dans notre travail de tous les jours, faisant cela pour le Seigneur le mieux possible. Et dans ce sens-là, une manière de servir le Seigneur et d'être un bon témoin pour lui, c'est de bien faire son travail sans qu'on ait de reproches. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais sans que nous soyons coupables de quelque chose de mal fait. Je me souviens avoir lu, il y a quelqu'un qui travaillait en Chine et qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, et il écrivait à une personne qui était en Angleterre et qui travaillait à faire des paquets dans une usine. Elle faisait des paquets pour les envoyer par la poste, et elle ne trouvait pas son travail tout à fait passionnant. Et de notre côté, elle rêvait un peu en pensant à ceux qui étaient là, missionnaires en Chine, loin, à eux ils servent le Seigneur. Et ce croyant écrivait en disant, « Eh bien, vous savez, vous ne servez pas moins le Seigneur en faisant vos paquets, que moi en étant en Chine, en annonçant la parole aux Chinois qui sont là. » Et la fidélité que vous faites jour après jour en faisant vos paquets, en les faisant comme pour le Seigneur, eh bien cela est aussi pour la gloire du Seigneur et pour sa satisfaction. Et dans les petits détails de notre vie, dans ce que nous faisons tous les jours, c'est une manière aussi de le servir en étant un bon ouvrier pour lui. Et il y aura une récompense aussi pour cela.
Nous aimerions montrer un instant la différence entre une chose due et une chose qui est un don. Une chose que l'on mériterait par son travail et d'autre part un don absolument gratuit. Dans l'énoncé de la vie d'Abraham, en Romains 4, nous avons un verset très important. À celui qui fait des œuvres, le salaire. Donc celui qui fait des œuvres mérite, reçoit un salaire. Je suis tombé d'accord avec vous pour un salaire. À celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de chose due. Un salaire, une chose due, et ensuite, mais à celui qui ne fait pas des œuvres, mais celui qui croit, celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée, sa foi lui est imputée, lui est comptée, elle est donc donnée. Dans le même épître, fin du chapitre 6, les gages, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de grâce, c'est la vie éternelle. Donc, des contrastes absolument frappants. Il n'y a pas de commune mesure entre ce qui est légal, ce qui est lié à la loi. Paul dira, je parle à des gens qui savent ce que c'est que la loi, non pas seulement la loi des 10 commandements, mais un ensemble de prescriptions que les hommes se donnent à eux-mêmes en vue de mériter quelque chose de la part de Dieu. Dieu sera ce que je suis pour moi, ce que je suis pour lui. Mais c'est un système absolument faux. Il n'y a pas de commune mesure entre la loi, ce que je dois faire, et ce que Dieu donne. La loi ne me donne aucune force, aucune puissance, aucun objet pour mon cœur. Elle est un ministère de mort et de condamnation. De sorte que nous retenons bien que sur le pied de l'Évangile, tout nous est donné par la grâce. Rien n'est demandé à l'homme. Tout est donné par un effet de la souveraine grâce de Dieu. Et dans notre parabole, nous avons des expressions tout à fait remarquables au point de vue de leur opposition. Étant tombé d'accord, Dieu est tombé d'accord avec eux pour un salaire, pour une redevance. D'autre part, allez et je vous donnerai. Dieu est tombé d'accord avec l'homme, c'est le terrain de la loi. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Dieu a dit, nous sommes d'accord, et Dieu va donner la loi, l'épreuve de l'homme à laquelle il n'a pas pu accéder, qu'il n'a pas pu réaliser en aucune manière. La loi est un ministère de mort et de condamnation. Le travail alors que nous accomplissons, deuxième remarque, Paul nous donne la qualité de celui-ci, c'est-à-dire la manière de l'exécuter. La manière d'être dans ce travail pour Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, nous lisons la part de l'apôtre, et peut-on trouver un exemple de travailleur plus zélé, plus dévoué que lui? Il dira au verset 10 de 1 Corinthiens 15, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » La grâce de Dieu avait opéré dans son cœur, elle avait été le motif pour toute son activité. Et Paul n'est jamais revenu un instant sur le dévouement, sur l'élan qu'il avait manifesté au début de sa carrière. Dans la deuxième épître à Timothée, par exemple, la dernière qu'il a écrite, on ne trouve aucune fatigue, aucune lassitude dans ce service. Et que recevait-il pour lui-même? Comment l'appréciait-il? Eh bien, vous voyez, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé... Nous citons toujours en Corinthiens 15, verset 10, « J'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. » Il a travaillé beaucoup plus que tous, mais par la grâce de Dieu qui était avec lui. Et il dira plus loin, dans la deuxième épître aux Corinthiens, encore ce passage que nous connaissons bien, que par la grâce de Dieu, dit-il, « Je ne suis rien. » 2 Corinthiens 12, verset 11. « Car je n'étais en rien moindre que les plus excellents apôtres, quoique je ne sois rien. » Voilà l'appréciation que Paul avait de lui-même, de son service. Il avait travaillé beaucoup plus que tous, mais il l'avait fait par la grâce de Dieu, et il dit, « Eh bien, je ne suis rien. » Sauf que nous retenons cet appel de Dieu dans cette parabole, tomber d'accord avec l'homme pour réaliser un contrat, ou bien être envoyé et recevoir sur le principe de la grâce, ce n'est pas le motif de notre activité, mais recevoir sur le pied de la grâce une récompense extrêmement riche que le Seigneur veut nous donner. Dernier mot, le Seigneur dit appelle. Le Seigneur appelle quelqu'un à travailler. Nous ne pouvons pas décider nous-mêmes de ce que nous allons faire de notre choix. Dieu appelle quelqu'un à son service, il lui donne la spécialité du service qu'il va remplir, il lui donne les facultés pour le remplir, et lorsque ce service est rempli, bien, nous devons dire comme Paul, je ne suis rien.
Or, avec le passage que notre frère a cité concernant les esclaves, vous servez le Seigneur Christ, vous ne servez pas des hommes. Dans le service qui vous est demandé de la part des hommes, eh bien, vous n'oubliez pas que c'est le Seigneur que vous servez, vous recevrez la récompense de l'héritage. Pensant à une autre exhortation concernant également les esclaves, dans Tite 2. Dans Tite 2, il nous est dit, au verset 9, exhorte les esclaves à être soumis à leur propre maître, à leur complaire en toutes choses, n'étant pas contredisant, ne détournant rien, mais montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur, l'enseignement ou la doctrine qui est notre Dieu Sauveur. Est-ce qu'on peut pas dire que nous avons déjà là comme une récompense de la part de Dieu à l'égard des esclaves pour le temps présent? Dans l'Épître aux Colossiens, nous avons la pensée de l'éternité. Quelle sera votre part? Eh bien, vous aurez la récompense, vous avez la récompense de l'héritage. Alors, pour le temps présent, leur comportement est comparé à un ornement. En agissant ainsi en toute fidélité, ils ornaient l'enseignement qu'est notre Dieu Sauveur. C'est pas peu de chose que d'avoir un comportement tel qu'il est comparé à un ornement, l'ornement de la doctrine ou de l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Cela n'est pas dit des vieillards, cela n'est pas dit des sœurs âgées, cela n'est pas dit des jeunes gens, cela dit des esclaves. Peut-être la situation sociale la plus humiliante qui soit. Eh bien, c'est d'eux qu'il est parlé de leur comportement comparé à un ornement de la doctrine, de l'enseignement qu'est notre Dieu Sauveur. N'y avait-il pas déjà là comme une récompense qui leur était accordée en pensant que le comportement n'était rien d'autre qu'un ornement? Pour le temps présent, une récompense, et puis Colossiens nous amène jusque dans l'éternité, et cela également en rapport avec l'esclave et un esclave agissant pour le Seigneur, dans la pensée qu'il servait le Seigneur Christ.
Sur le même sujet, est-ce que ce n'est pas déjà une grande récompense de servir le Seigneur Christ? Travailler pour un tel maître, un serviteur à la cour royale, est satisfait de sa position, il sert le roi. Combien plus nous, et c'est aux esclaves en particulier qu'il s'adresse. Dans l'Épître aux Éphésiens, et c'est remarquable aussi que l'apôtre s'adresse surtout et longuement aux esclaves, dans l'Épître aux Colossiens et dans l'Épître aux Éphésiens. Il y a 3 ou 4 versets pour les esclaves, alors qu'il y en a 1, parfois pour les maîtres, pour les femmes, pour les enfants, il y en a 3 pour les esclaves ou 4. Eh bien, dans le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, là aussi l'apôtre s'adresse aux esclaves. Et que dit-il? Eh bien, il leur dit, servons joyeusement. Voilà encore un salaire. Servant joyeusement le Seigneur. C'est au verset 6e. Mais comme esclaves de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu, servant joyeusement comme à servir au Seigneur. Il a été parlé du salaire d'un denier, et en effet, le Seigneur nous récompense et subvient à tous nos besoins, dans quelque situation que ce soit, selon son appréciation et selon comment nous allons gérer ses biens. Mais est-ce que nous n'avons pas déjà un grand salaire à servir le Seigneur Christ et à servir joyeusement le Seigneur?
C'est une insatisfaction qui se traduit là par un mécontentement. Il survient là et jusqu'au moment du règlement des comptes, ils n'étaient pas mécontents. Ils le sont à partir du moment où la jalousie entre dans le cœur et on dit « Mais comment ? Voilà ceux-là qui n'ont rien fait et qui sont payés autant que nous. » Alors on trahit là un sentiment qui est au fond un sentiment légal. Alors, pour insister sur ce qui a été dit tout à l'heure, le monde du travail a ses lois. Bon. Une de ces lois, c'est à travail égal, salaire égal. Et cette loi, elle risque de nous imprégner au point que, voilà, c'est un esprit légal que celui-là. Et l'esprit légal, on voit, est totalement contraire à la grâce, totalement contraire à la connaissance du bon maître que nous avons le privilège de servir. Nous le connaissons et par amour pour lui, il nous est agréable de faire quelque chose. Comme on vient de l'entendre, vous servez le Seigneur Christ. Personne de moindre que lui. Et en cela, voilà, avoir été appelé à la 11e heure, Et nous sommes tout à la fin du temps de la grâce, nous sommes appelés aussi par la grâce de Dieu. Voilà peut-être une chose qui nous paraîtrait insignifiante à nos yeux, mais qui est valorisée, qui prend toute sa dimension, tout son prix, à cause de celui pour lequel nous le faisons.
Nous voyons un peuple ouvrier, un peuple qui servait le Seigneur, qui servait au témoignage, une pensée en rapport avec la communion dans le Seigneur, les uns envers les autres. Dans le chapitre 4, verset 49, nous voyons, on est dénombreux selon le commandement des carrières parmi nous, chacun selon son service et selon son travail. Qui devait fonctionner pour la gloire du Seigneur, chacun à sa place.
Ceux qui ont servi sur le principe de la grâce reçoivent leur salaire sans rien dire. Ceux qui servent en surestimant ce qu'ils font et en le faisant pour un salaire, quelle est leur attitude? Le maître de maison, donc, appelle les ouvriers, dit à son intendant, paie-leur leur salaire, en commençant depuis les derniers. Là aussi, c'est une manière de Dieu de faire, et pas la manière de l'homme. Et c'est quelque chose que nos frères soulignent et qui est important. Nous devons aussi voir les choses comme Dieu les voit et ne pas les voir comme l'homme dans son caractère naturel le voit. Il commence à payer les derniers, et nous voyons que les derniers reçoivent chacun un denier. Et puis, on ne trouve rien dans leur bouche. Mais quand les premiers furent venus, ils croyaient recevoir davantage. Voilà ce qui est grave. C'est que quand on sert plutôt pour soi que pour le maître, quand on sert pour que le service soit en vue plutôt que le maître soit servi, on croit qu'on va recevoir davantage. Et quelle est la parole que le maître adresse à ceux-là? Eh bien, prends ce qui est à toi et va-t'en. Prends ce qui est à toi et va-t'en. Quelle différence avec celui qui ne sert pas pour avoir une récompense, mais néanmoins, la récompense est un encouragement que Dieu donne à ceux qui le servent humblement. Pas perdre de vue cela. On ne sert pas pour une récompense. Et nous parents, il nous est arrivé dans la vie de famille de proposer une récompense pour encourager. Et si les parents sont justes, quand l'effort est fourni, quand le travail est fait, la récompense est donnée. Mais la récompense n'est pas un dû, elle est encore un effet de la miséricorde de Dieu. Et nous voyons que s'il y a service reçu à cause de la miséricorde, il y a aussi récompense, et c'est encore selon la miséricorde. Et nous trouvons cette pensée dans la deuxième épître à Timothée, lorsque l'apôtre parle de la maison d'Onésiphore. Voilà une maison qui avait servi le Seigneur d'une manière particulière. Il m'a souvent consolé. 2 Timothée chapitre 1. C'est aussi un service cela. Service caché. Le Seigneur console les siens. Le Seigneur nous console. Mais il peut employer l'un ou l'autre, frère ou sœur, pour consoler quelqu'un qui est dans l'affliction. Et Paul peut rendre ce témoignage. Il m'a souvent consolé, n'a point eu honte de ma chaîne. Mais quand il a été à Rome, il m'a cherché très soigneusement. Notre frère a souligné tantôt un service fait avec soin. Quelque chose, nos sœurs dans leur cuisine peuvent servi le Seigneur, préparant le repas pour les enfants, pour le Père qui va rentrer, comme cette personne qui nous a été soulignée tantôt, qui faisait des paquets. N'oublions pas que le serviteur parfait, celui qui a parlé et à sa voix la chose s'est tenue là, qui a tiré du néant les choses qui sont, a été appelé le charpentier. Il s'est mis aux pieds de ses disciples pour les rafraîchir dans le chemin. Et ce service, il le fait encore maintenant pour nous dans la gloire. Et lorsque nous serons avec lui, s'avançant, il nous servira. C'est le serviteur à toujours. C'est celui d'Exode 21 qui a dit « J'aime mon maître ». Ah, voilà. J'aime mon maître. Voilà la base du service. J'aime ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. Et il s'est approché du poteau. Il porte la marque indélébile d'un service à toujours. Eh bien, nous revenons à ceci. Paul souhaite pour Onésiphore, pour sa maison, quelque chose. Le Seigneur lui fasse trouver miséricorde de la part du Seigneur dans ce jour-là. Et ce jour-là, c'est le jour des récompenses. Nous le trouvons à la fin de l'Épître, chapitre 4 de 2 Timothée, verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice. Que le Seigneur juste juge, le maître de la maison est juste. » Et il est dit au verset 15, c'est ce qui souligne ce qui appartient au maître de maison, verset 15 de Matthieu 20, « Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien ?» Voilà le point central de du troisième enseignement de cette parabole. « Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien ?» Alors, les premiers serviteurs, eh bien, ils avaient espéré beaucoup. Et pourquoi donnes-tu aussi un denier au dernier? Mais la récompense est aussi selon la miséricorde de Dieu. En ce jour-là, lorsque les couronnes seront données comme récompense, ce sera encore sur la base de la miséricorde du Seigneur.
Je voulais émettre une pensée en rapport avec le salaire et ce qui s'est passé dans la maison du Père avec le fils prodigue. Le fils prodigue qui avait dépensé tout, et l'autre frère qui vient et qui peut dire, comme ceux qui s'étaient engagés par contrat, les Juifs, et qui peut dire jamais, je n'ai transgressé ton commandement. Je n'ai transgressé ton commandement. Mais le Père dit, il fallait se réjouir et faire bonne chère. Le salaire était entier pour celui et pour ceux qui avaient travaillé et qui réellement étaient revenus à Dieu et recevaient ainsi un plein salaire. Tandis que l'autre, il refusa d'entrer dans la maison du festin.